D'abord, l'agri-urbanisme, c'est un concept inventé par mon collègue André Fleury, qui sera ici dans une dizaine de jours, et sur lequel on a travaillé depuis quelques années, en tant qu'essentiellement que figure professionnelle. La question que l'on se pose, c'est ces territoires hybrides qui devraient, pour bien fonctionner, prendre en compte aussi bien les besoins de la ville, les logiques de la ville, que les besoins et les logiques du monde agricole, nécessiteraient des compétences qui ne sont formées nulle part. Les architectes ne connaissent rien de l'agriculture, les agronomes ne connaissent rien de la ville, les urbanistes non plus. Donc actuellement, aucune formation n'existe pour permettre à des compétences d'émerger qui pourraient à la fois prendre en compte les besoins du monde urbain et les besoins du monde agricole. Donc ce qu'on a voulu monter, c'est d'abord une esquisse, une ébauche de spécialités professionnelles. Donc en pratiquant d'une manière assez simple des mutualisations d'enseignement entre des architectes, des paysagistes et des agronomes. Donc, on fait travailler ensemble, principalement pour qu'ils se découvrent les uns les autres, que les uns découvrent le domaine de compétences des autres. Voilà pour l'agri-urbanisme, qui est essentiellement cette idée-là de créer les compétences professionnelles qui seront à même de répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui. Alors, ensuite, comment est-ce qu'on peut pragmatiquement faire avancer les choses? Je dirais qu'on n'en est qu'il y a des hypothèses, qu'il y a des pistes, parce qu'il faudrait déjà qu'il y ait un peu plus d'architectes urbanistes qui soient formés à l'agronomie ou de paysagistes qui soient formés à la ville et au monde de l'agriculture pour qu'on puisse expérimenter plus large. Mais déjà, quand j'apprends à des architectes que les agriculteurs, ils travaillent avec des engins qui ont une largeur, en l'occurrence, qu'ils soient bio ou pas, d'ailleurs, ils utilisent tous des pulvérisateurs qui font 25 mètres de large. Bon, si vous laissez une parcelle de 24 mètres, ben, il passe plus. Il faut qu'il achète un matériel spécial pour cette parcelle-là. Il ne le fera pas, donc la parcelle ne sera pas exploitée. Ça donnera une friche. Apprendre ce genre de petites choses, savoir que l'agriculture fonctionne, mais depuis qu'elle existe, hein, depuis qu'on l'a mécanisée surtout, mais ça fait longtemps, avec des contraintes propres en termes de dimension. Et donc, quand on laisse, ce qui est très fréquent, des parcelles triangulaires et filées en pointe, parce que les réseaux routiers imposent ça. Les routes se raccordent rarement avec les systèmes d'échangeurs qu'on a aujourd'hui. Par des axes perpendiculaires, se raccordent toujours en biais, hein, et ça laisse des parcelles qui sont inexploitables ou en partie non exploitables. Ça donne de la friche. Bon, ça c'est la partie gaspillage. Donc cette partie gaspillage qui nécessite aussi d'éviter d'enclaver des territoires. Une ferme céréalière, ça a besoin de 200 hectares pour amortir une moissonneuse-batteuse, tout simplement. Donc sinon, on ne l'amortit pas sur 50 hectares. Donc si on laisse des enclaves trop petites, ben, ça ne peut plus fonctionner pour une ferme céréalière. On veut faire du maraîchage partout, d'accord, mais bon, le maraîchage, ça n'a jamais dépassé 5% de la surface agricole et ça ne résoudra pas tous les problèmes. Avec des lisières qui, à Paris, par exemple, atteignent aujourd'hui 13 000 km, c'est environ 50 fois plus par habitant que ce qu'on avait dans les siècles précédents, quoi. Donc on ne peut pas résoudre le problème en faisant des petites fermes maraîchères, ce qu'on trouve dans plein de projets pourtant, mais c'est une erreur d'échelle, hein. On a besoin de faire la ville avec l'agriculture qui fonctionne, et l'agriculture qui fonctionne, c'est 95% de grande culture. Donc, qui nécessite de l'espace, des seuils en termes de largeur, en termes de surface, et en termes aussi de territoire agricole. L'exemple que je donne souvent à mes élèves, c'est quand un agriculteur a sa moissonneuse-batteuse qui tombe en panne, il ne va pas l'amener dans un garage citadin. Il lui faut un garage spécialisé dans la réparation du matériel agricole. Or, ce garage ne se maintiendra pas pour une seule exploitation. Donc, il faut aussi maintenir des territoires qui soient fonctionnels en tant que tels. Donc là, ça se compte en milliers d'hectares. C'est ce qui se pose par exemple à Paris avec le plateau de Saclay. Si on le réduit trop, ce qui est peut-être en train de se faire, ben, la céréaliculture ne fonctionnera plus ou alors coûtera beaucoup plus cher. Parce qu'après, on met les moissonneuses-batteuses sur des semi-remorques pour les emmener se faire réparer dans l'Eure-et-Loir. Bon. Donc, prendre en compte ces critères très simples, hein, qui sont. En plus, un architecte urbaniste est parfaitement capable de comprendre parce que ça se monte sur un plan. Ce sont des contraintes en termes de dimension à prendre en compte quand on dessine la ville. Ça permet déjà d'éviter les gaspillages. Ensuite, le sujet sur lequel on travaille cette fois davantage avec les paysagistes, c'est sur la mise en valeur de l'agriculture en tant que telle. Aujourd'hui, quand vous regardez la valeur du mètre carré dans une ville, quelle qu'elle soit, elle est très forte en centre-ville et elle va en décroissant à mesure qu'on s'éloigne. Quand vous regardez New York autour de Central Park ou Paris autour des buttes de Chaumont, la présence d'un parc fait monter par contre le prix, donc crée de la centralité urbaine. Notre idée, c'est que l'agriculture pourrait remplir ce rôle, c'est-à-dire donner de l'aménité, c'est-à-dire quelque chose d'agréable à avoir à côté de chez soi, et qui soit une mise en valeur qui fasse monter plutôt la densité urbaine plutôt que de la faire descendre. C'est-à-dire d'inverser un peu ce gradient et de faire en sorte que la proximité de l'agriculture soit un plus, soit une plus-value, et donc justifie une plus grande densité urbaine. En réponse à cette plus grande densité urbaine que permettrait l'usage de l'agriculture pour ses qualités paysagères, permettrait de répondre à bien d'autres questions. Évidemment, celle de la consommation de l'espace, mais aussi celle de la qualité de vie. Ce qu'on disait tout à l'heure quand on discutait, c'est que dans une zone pavillonnaire où il y a un pavillon tous les 300 mètres carrés, c'est souvent plus que ça, hein, c'est, par ici, je pense que vous êtes tout de là, n'y a pas de boulangerie à proximité, il n'y a pas d'arrêt de bus. Enfin, quand on a une manière d'occuper le territoire très, très large, très peu densifié comme ça, on a très peu de services aussi. Donc, obligation de prendre la voiture tout le temps. Il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'espace public dans ces territoires-là parce que on prend sa voiture dès qu'on a une baguette de pain à acheter, donc on ne rencontre personne. On perd toutes les qualités de la ville et on n'a pas vraiment gagné les qualités de la campagne. Donc cette densification permettrait de créer de nouveaux modèles qui ont été expérimentés un peu partout en Europe, hein, dont on sait que ça peut exister, répondre aux attentes des citadins qui veulent du pavillonnaire parce que c'est la seule solution qu'on leur a donnée depuis 40 ou 50 ans. Mais si on réanalyse leurs besoins, ils veulent un espace extérieur, mais pas forcément 300 mètres carrés, dont ils ne se servent pas d'ailleurs en général. Ça sert juste à repousser le voisin, mais il y a très peu d'usage. Hein. On dit qu'il faut de l'espace pour que les enfants jouent. Les enfants, ils préfèrent jouer sur un espace partagé. Jouer au ballon, c'est plus rigolo à plusieurs que tout seul. Donc toute une partie des besoins auxquels on a répondu par le pavillonnaire, le petit cube dans le carré de 300-400 mètres carrés, on pourrait y répondre en partie par de l'espace extérieur, mais quoi, la taille d'une salle à manger pour pouvoir manger dehors à l'abri du regard des voisins. Ça peut se faire par des réponses architecturales travaillées dans ce sens, et puis de l'espace collectif ou public qui permettrait de répondre aux autres attentes. Ça, c'est sur quoi on fait travailler à la fois les architectes et les paysagistes. Donc utiliser l'espace agricole comme un central parc, mais qui serait un central parc périphérique, donc qui apporterait de la plus-value, et densifier l'usage du sol tout en répondant aux attentes en termes d'isolement. Ce que cherchent essentiellement les gens, c'est ne plus avoir les nuisances de la proximité du voisin comme on l'a dans les barres d'immeubles, mais ça se règle par d'autres techniques, isolation phonique, isolation visuelle, et puis des espaces privés, mais qui n'ont pas besoin d'être très grands. Donc c'est là-dessus qu'on fait travailler nos élèves. On a des résultats qui ne sont pas inintéressants, mais il faut encore du temps avant que...
Oui, parce que je ne vais pas dire que c'est novateur, bien évidemment, mais c'est une initiative qui est quand même assez récente au niveau de l'enseignement, déjà, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Vous dites aussi que, pour vous, il faudrait que l'agriculteur devienne un petit peu le plasticien de l'environnement. Alors, si on se situe maintenant du côté de l'agriculteur, vous disiez que l'agriculteur, il a tendance à devenir de plus en plus un citadin aujourd'hui. Enfin, il est aussi lui-même citadin, peut-être avec l'exemple. J'aimerais qu'on revienne aussi à des exemples, mais du point de vue de l'agriculteur, comment se perçoit cette concertation ou cette participation du travail? Comment c'est perçu du point de vue de l'agriculteur, qui lui est un petit peu pris un petit peu au travers en nous vend une agriculture biologique, justement l'image mercantile dont je parlais tout à l'heure, des petites exploitations, et puis on sait que la France est la spécialiste de l'agriculture intensive, donc comment lui, l'agriculteur, il reçoit cet enseignement, justement, comment il perçoit ces changements à venir?
Alors, dans les quelques exemples sur lesquels nous avons travaillé, parce qu'à chaque fois qu'on fait travailler les élèves architectes, paysagistes et agronomes, on choisit un terrain, et donc on rencontre aussi des élus et des agriculteurs. Quand un agriculteur voit un projet dans lequel, sur les coupes, il voit apparaître son tracteur, il voit apparaître ses contraintes à lui sous forme métrique, hein, dans les plans, il est déjà beaucoup plus prêt à accepter de collaborer que si on lui réinvente sa ferme. Ce qu'il n'aime pas en général, c'est quand le paysagiste, l'architecte ou l'urbaniste lui dessine sa ferme, ce que doit être sa ferme, alors que lui a ses propres logiques, ses propres contraintes de fonctionnement, et que la petite ferme qui plaît à tout le monde, lui, elle ne lui plaît pas, parce que ça fait des générations qu'il essaye d'y échapper, parce que pour lui, c'est la misère. Et la misère du paysan, ça fait beaucoup rêver les citadins, mais pas du tout les paysans.
Alors justement, si on revient à cette idée de plastique, j'aimerais que vous explicitiez des exemples. Je sais que vous avez travaillé beaucoup en Île-de-France. C'est vrai que là, je parlais d'agriculture intensive. On a des exemples quand même les plus importants en France. Comme ça, je sais qu'il y a eu aussi, j'ai vu un travail en Italie aussi. Des exemples un petit peu de cette Moi, je dirais de cette nouvelle plastique du paysage, c'est-à-dire de cette, justement, de vous parlez de seuil, hein, je crois que le terme, vous préférez le terme de seuil à frange ou à lisière. Quelques résultats, quelques initiatives, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ?
Quelques résultats, non, c'est un peu trop tôt, sauf à me référer à d'autres exemples qui ont été réalisés ailleurs. Par contre, il faut déjà comprendre que le paysage, tel qu'on le comprend, nous, à l'école du paysage, tel qu'on l'enseigne, c'est à la fois une réalité physique et un regard porté sur cette réalité physique. Et en tant que paysagiste, l'œuvre du paysagiste tient autant à la modification, transformation de cette réalité qu'à la transformation du regard que l'on porte dessus. Donc, apprendre déjà aux citadins à apprécier le champ de blé, c'est une question de culture. Hein. Pendant des millénaires, un beau champ de blé avec des gros épis et pas beaucoup de mauvaises herbes dedans, c'était beau. C'était beau pour tout le monde parce que c'était la garantie qu'on n'aurait pas faim l'hiver prochain. Ça, c'est une esthétique qui ne passe plus aujourd'hui. Parce qu'on est dans une logique où on se croit en surproduction. Hein. Demandez aux milliards d'êtres humains qui souffrent de la faim et vous diront qu'on en est loin de la surproduction. C'est une question de répartition, ce n'est pas une question de quantité, d'efficacité de l'agriculture. Notre agriculture produit ce qu'il faut pour nourrir l'humanité, mais à condition d'être productive, justement. Hein. Je ne dis pas forcément intensive, mais productive. Donc enlever la productivité comme critère pour un agriculteur, c'est un contresens. Lui dire que cette productivité doit se faire avec des principes de protection de l'environnement, avec l'accord des attentes des citadins, dans la mesure où ça, c'est possible techniquement pour lui, on peut discuter de ça. Mais lui dire d'oublier la productivité comme finalité, on ne peut pas. C'est contraire à la logique même de sa profession. Par ailleurs, il est important aussi, on travaille pas mal là-dessus, de rappeler que l'agriculture, ce n'est pas de la nature. L'agriculture, c'est une culture, hein, c'est dans le mot. Le mot culture, c'est d'abord savoir planter. Michel Serres disait, nous sommes des gens cultivés parce que nous savons cultiver la terre. Prenez votre gaffio, vous verrez que cultura, en latin, ça veut d'abord dire planter. Après, ce n'est pas ce qu'on sait faire en agriculture qu'on a développé la culture. Donc la culture, ce n'est pas la nature. Assimiler la culture à la nature, comme on le voit malheureusement trop souvent, c'est nier le travail de l'agriculteur. L'agriculteur, son travail, c'est de transformer la nature en quelque chose d'utile à la société. Ce n'est pas la laisser faire. Il n'y aurait jamais eu de blé en Ile-de-France si on n'avait pas inventé ça. Donc, éviter de confondre nature et agriculture, savoir apprécier en termes esthétiques le travail de l'agriculteur, donc les traces de ce travail, qui précisément sont bien la mécanisation, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne, mais ce n'est pas nouveau. Hein. L'agriculture a toujours eu besoin d'outils. Donc, apprendre à apprécier, je crois que les Américains font ça mieux que nous, les Américains du Nord, pour qui le tourisme agricole, l'agritourisme, est un tourisme culturel. On va dans des fermes pour apprendre comment fonctionne l'agriculture. Et ce n'est pas un tourisme gastronomique ou pittoresque comme on fait chez nous. Ce n'est pas la même chose. Donc apprendre à apprécier ce travail, pour ce qu'il est, pour sa valeur, pour l'esthétique qu'il donne. Moi, je trouve qu'un champ de blé, c'est une variation de couleur d'un bout à l'autre de l'année qui est très riche. Il n'y a pas que l'esthétique même de la productivité du grain de blé. Il y a aussi tous les stades intermédiaires qui sont d'une grande richesse pour peu qu'on prenne la peine de les regarder. Alors après, quand on a discuté de ça, avancé là-dessus, on peut dire aux agriculteurs, par exemple, éviter de mettre du maïs juste sous notre nez, parce que le maïs, il va nous boucher la vue. Donc on peut traiter avec lui d'arrangement, d'accord, comme ça. S'il y a un surcoût, ben, on discute avec lui comment est-ce qu'on compense ce surcoût. Mais si on ne part pas d'idées fausses, si on ne lui impose pas une image agricole qui est décalée par rapport à la réalité, et qui souvent est décalée même par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que la petite ferme qui fait rêver les citadins, elle n'a jamais existé, tout simplement. Elle existait chez Marie-Antoinette, c'était ça, mais elle n'existait pas dans la réalité. Donc sortir de ces rêves, de ces visions complètement décalées, retourner voir comment marche l'agriculture, prendre en compte et favoriser les efforts que font les agriculteurs, y compris les plus productifs, quand ils les font. Les efforts qu'ils font pour protéger l'environnement, c'est-à-dire travailler la protection de l'environnement avec eux et pas contre eux, ça, c'est une chose essentielle aussi. Voilà, à partir de là, les dialogues peuvent se construire et on peut avancer. Ensuite, sur ces franges, sur ces zones qui peuvent devenir à ce moment-là des lisières, on peut aussi travailler avec l'agriculteur à des espaces hybrides, à des espaces intermédiaires, parce que la moissonneuse-batteuse passant sous les fenêtres, c'est pas terrible. Donc il vaut mieux avoir des espaces de transition. Ces espaces de transition, si c'est des espaces verts, ils vont coûter une fortune. Donc regardez dans les zones pavillonnaires, en général, il n'y en a pas. Derrière les tuyas, il y a le champ, les deux s'ignorent complètement. Bon. Si on veut travailler les zones intermédiaires, on peut demander aux agriculteurs d'y contribuer. Ils ont les outils pour le faire, ils ont le savoir-faire. Donc c'est pareil, ça a un coût, donc il faut prendre en compte ce coût. Et on peut travailler avec eux une transition qui serait beaucoup plus intéressante entre la ville et le territoire de l'agriculture.
Alors, il y a un terme que vous employez que j'aime beaucoup, c'est les zones de ménagement. Au lieu de parler d'aménagement, il y a ce terme de ménager. Vous parliez de gaspillage tout à l'heure. Et finalement, on voit bien, oui, c'est dans ces échelles intermédiaires, finalement quand même dans une épaisseur. J'aimerais peut-être une dernière réaction. On a vu ces dernières années fleurir pas mal justement de projets d'agriculture urbaine. On voit que les architectes, en tout cas, se posent de plus en plus, enfin certains paysagistes, certains architectes se posent vraiment cette question. J'aimerais que vous y reveniez un petit peu, parce que vous disiez tout à l'heure que finalement, bon, ben, la lisière de la ville, c'est les zones de maraîchage, et que finalement, ça ne peut être que limité. On a de bons exemples, ça sera le sujet d'ailleurs d'une des prochaines stations d'Evento. Mais quel est le regard que vous portez sur ce vous parliez des exemples, je pense qu'au Canada, aux États-Unis, il y a effectivement beaucoup plus d'exemples assez intéressants. Est-ce que vous pourriez en apporter un
Je dirais déjà que la situation en Amérique du Nord est très différente de la situation en Europe et qu'il ne faudrait pas les confondre. Notamment le périurbain de Montréal, qui est l'objet de beaucoup de projets, il y a de l'espace, beaucoup d'espace. Chez nous, il y en a beaucoup moins. On est beaucoup plus serré par les contraintes en termes de disponibilité de l'espace. L'agriculture urbaine, on y met beaucoup de choses derrière maintenant, notamment des idées de sécurité alimentaire, et qui sont assez paradoxales. Par sécurité alimentaire, on entend essentiellement nourrir la ville en cas de problème, s'il n'y avait plus possibilité de transporter les aliments, comment on ferait, bon. Et on fait quoi ? Des légumes, des fruits et des légumes. Or, quand il y a des famines quelque part, ce n'est pas parce qu'on manque de fruits et de légumes, c'est parce qu'on manque de blé, de maïs, de pommes de terre. C'est la grande culture qui fait qu'on ne meurt pas de faim. Les fruits et légumes, c'est le complément alimentaire. Ce n'est pas ce qu'on a le plus de mal à faire. Ce qu'il faut assurer, en termes de sécurité et de souveraineté alimentaire, c'est d'abord le blé, parce que c'est ce qu'on sait faire chez nous. C'est ce qu'on fait le mieux. Et c'est aussi la pomme de terre, le maïs, c'est la banane plantain dans d'autres climats, c'est le manioc. Mais ce sont ces plantes de grande culture qui assurent les apports caloriques dont on a besoin pour ne pas mourir de faim. Donc répondre à ces questions de sécurité alimentaire part du jardinage, ce que moi j'appelle du jardinage urbain, parce que ce n'est pas de l'agriculture, on n'est pas dans une logique de production et de mise sur un marché. C'est passer à côté des vrais problèmes. Donc c'est important de le faire, il y a des tas de raisons pour le faire. Il y a des tas de raisons parce que ça remet le citadin en contact avec l'agriculture, avec les techniques agricoles en tout cas, même si ça ne remet pas en contact avec le fonctionnement économique, ce n'est pas la même chose. Donc ça le met peut-être en posture de mieux comprendre ce que l'agriculteur pourrait lui dire, si après on va chercher à comprendre ce qu'il fait, parce que ce n'est pas toujours lié. Mais ça ne résout pas les problèmes en termes de sécurité ni de souveraineté alimentaire. Pour ça, il faut préserver nos champs de blé, d'abord.
Alors juste une dernière petite réflexion. Je pense que l'usage du train, c'est un des derniers usages qui nous met, justement, parce que finalement, on va de grande ville en grande ville. Et le train, je trouve, c'est juste une réflexion que je fais comme ça. Je trouve que c'est assez, justement, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à ce seuil. Je trouve que la bordure de voies ferrées, je ne sais pas si c'est dans le cadre des projets avec les étudiants, on se rend bien compte justement de ces transitions entre domaine urbain, domaine agricole, l'aménagement du paysage comme il s'est constitué. Voilà, c'était une réflexion que je faisais comme ça. Je ne sais pas si elle vous évoque quelque chose, mais
si vous voulez,
le paysage en mouvement, en fait, ce qu'on appelle un peu le paysage en mouvement, en fait.
Si vous voulez qu'on parle du train, il y aurait beaucoup de choses à en dire avant de parler du paysage en mouvement qu'il y a pour le passager. Hein. S'il y a eu une grande révolution ces deux derniers siècles, ce n'est pas les années 50, c'est les années 1850, pas 1900. C'est l'expansion du chemin de fer. C'est l'expansion du chemin de fer qui a complètement reconfiguré les paysages agricoles français, notamment français. Parce qu'en France, on a développé le chemin de fer pour des questions de sécurité territoriale, militaire, cette fois, et un peu économique aussi, mais on l'a développé beaucoup plus vite que les autres. Et en l'espace de 30 ans, on a quasiment couvert le réseau actuel. Et ça a complètement reconfiguré les paysages agricoles français. Et ça fait que la nécessité qu'on avait de produire les fruits et légumes, tous les produits frais à proximité de la ville, n'était plus opérationnelle, il n'y avait plus de raison. On pouvait très bien faire des tomates là où il y a du soleil et les emmener en train sur le marché parisien. Elles étaient meilleures, elles coûtaient moins cher, elles consommaient moins de carburant. Parce que ce qui coûte le plus dans les tomates, c'est les serres que l'on chauffe, ce n'est pas le camion qui la transporte. Bon. Donc le chemin de fer a complètement reconfiguré l'espace et principalement la relation ville-agriculture. Qui fait qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut transporter les fruits et légumes à travers la planète, c'est un autre débat, surtout par avion cargo. Mais on ne peut pas penser l'avenir de la ville et de son alimentation en termes de proximité comme on le faisait avant l'invention du chemin de fer. Ce serait contre-productif écologiquement parlant, parce qu'on dépenserait beaucoup plus d'argent à produire des choses qui ne poussent pas bien, à faire chauffer des serres pour les avoir. Si on fait des tomates dans le nord de la France, on les mange en septembre si on ne chauffe pas les serres. Bon. Donc on ne veut pas attendre septembre, donc on va chauffer des serres, c'est ce qu'on fait. Tout le maraîchage parisien fonctionne sur le chauffage des serres et a un coût environnemental bien plus élevé que les tomates qu'on fait dans le Val-de-Loire et qu'on transporte à Paris. Bon, voilà. Sur le chemin de fer, c'est surtout ça que j'aurais à dire, mais c'est un peu à côté de vos questions.